À mon arrivée à Paris il y a une dizaine d'années, j'ai été frappée par une forme de solitude. Longtemps, je me suis ennuyée, longtemps, je ne savais pas vraiment où aller, où regarder, sans me sentir un peu perdue. Alors je restais inoccupée dans mon quartier et j'ai pris l'habitude de m'asseoir à une terrasse de café dans une rue dégagée et fréquentée. Deux conditions très importantes pour la suite. Et c'est là qu'un jour a commencé mon étrange rituel. Je regarde au loin et, intriguée par une silhouette, je ne la quitte plus des yeux. Je le sais, mon jeu va consister à imaginer qui est cette personne, d'où elle vient, où elle va, quelle est son histoire et même comment elle s'appelle sans jamais lui parler. Je vous avoue que mes sujets de prédilection sont les personnes âgées, très âgées. J'ai toujours eu de la tendresse pour elles, pour leurs démarches hésitantes, leur façon de claudiquer, leur sens de l'économie dans chaque mouvement. Je les aime aussi parce que souvent, elles marchent lentement. Ça me laisse plus de temps pour les détailler. Je vous sens un brin inquiet tout d'un coup de l'autre côté du poste. Mon récit ressemble à celui d'une traque. Oui, mais d'une traque immobile, sans danger, car moi, je ne bouge jamais. J'évalue leur âge, à leurs vêtements, leur milieu social, à leurs souliers, le soin qu'elles apportent à leurs affaires. Ce qui me touche, c'est que leur regard ne se pose jamais au loin. Le dos courbé, l'horizon se réduit à la chaussée cabossée. Je vous avoue même qu'il m'arrive de les respirer quand elles finissent par passer péniblement juste devant moi. Eau de Cologne, parfum poudré, savon ambré, lessive fleurie. Et c'est là que je bascule. Tout me vient tout d'un coup. Le lavabo de la salle de bain, le peigne posé dans un coin. Pour chacun d'entre eux, j'imagine un intérieur. La tapisserie du salon, le carrelage de la cuisine, le pilulier sur la table de chevet, les chaussons dans l'entrée. Hier, j'ai ainsi rencontré, sans qu'elle le sache, une dame prénommée Danielle, 76 ans. Le corps éprouvé par une vie en dents de scie. Dans ses placards, toujours des biscuits pour ses petits-enfants qui passent la voir de plus en plus rarement. Elle avait mis une belle toilette couleur émeraude avec des boutons imposants. Dans son sillage, une odeur de plat mijoté rassurante.
France Inter.
Duh.
Le Mac de l'été. Leïla Kadou.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été, votre rendez-vous culture du lundi au vendredi où on parle de tout ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, on est de sortie, c'est le musée de la chasse et de la nature dans le Marais à Paris qui nous accueille. Et mon invitée est une femme qui m'a toujours intriguée et fascinée à la fois. Elle a fait de l'intime son champ d'investigation avec une forme de fantaisie qui ne laisse pas indifférent. C'est sans doute grâce à elle ou à cause d'elle que j'aime suivre des yeux des personnes âgées et m'en faire tout un monde. Elle, c'est Sophie Kahl. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Ici, on est au musée de la chasse et de la nature. C'est un lieu que vous connaissez bien. C'est un peu la dernière fois qu'on peut y mettre les pieds avant un petit moment, au moins un an et demi, sans pouvoir se balader ici. Et justement, j'aimerais vous soumettre, parce que l'étiquette artiste est un peu vaste, on aimerait vous connaître davantage, Sophie Kahl. Je vous soumets au questionnaire la dernière fois.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
Sophie, la dernière fois que vous avez pris une photo?
C'était il y a une heure, dans le Louvre, vide.
Et vous avez vos entrées?
Je n'ai pas mes entrées, c'était la première fois que je pouvais m'y promener. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que je me suis retrouvée devant la Joconde, dans une salle entièrement vide, à part moi, ce qui ne doit pas arriver souvent devant la Joconde. Voilà.
Et c'est elle que vous avez pris en photo?
Non, j'ai fait plein de photos, mais ça m'a fait rire d'être devant la Joconde vide. Je voulais l'envoyer à des amis en disant « Mon Dieu, le Louvre, c'est une catastrophe, il n'y a plus personne.
» Les touristes ne viennent plus au Louvre, ça serait un scoop ça quand même, Sophie Kahl. La dernière fois que vous avez jeté ou cassé un objet?
Ça n'a pas grand intérêt, c'était hier, une tasse.
Vous cassez souvent, vous êtes maladroite?
Non, pas du tout.
Ouais, ça arrive exceptionnellement?
Oui, absolument.
Et est-ce que vous gardez beaucoup les objets qui vous entourent?
Je garde tout de façon presque maladive. J'ai un ami une fois qui avait voulu me provoquer, qui m'avait offert une viande séchée des grisons.
Oui.
Et qui est revenu un an après pour voir si je l'avais gardée, parce que c'était un cadeau. Ce sont les cadeaux que je garde en général. Et elle était toujours dans le frigidaire. Donc, ma mémoire est plutôt défaillante. Donc, je garde tout ce qui peut me mettre sur la trace de mes souvenirs. Donc, j'ai chez moi des tiroirs, des caisses avec tous les sujets.
Une sorte de pense-bête.
Oui, tout ce qui peut m'aider à me souvenir. Parce que sinon, seule, je n'arrive pas à me souvenir.
La dernière fois, Sophie, que vous avez été en retard à un rendez-vous?
Je ne suis pas en retard.
Vous êtes quelqu'un de fiable, De ponctuel.
Fiable, je ne sais pas, mais en tout cas ponctuel, oui.
La dernière fois que vous avez ri au cinéma?
Je vais très peu au cinéma. Je crois que je suis allée au cinéma deux fois cette année parce que j'ai remplacé par le théâtre.
Ouais.
Et que je, voilà, c'était...
Vous êtes une grande spectatrice de théâtre. Vous sortez beaucoup, vous allez voir beaucoup de spectacles.
Oui. Donc, et j'ai vu deux films. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai ri au cinéma. C'était avant-hier pour le film dont j'ai oublié le nom, évidemment, puisque je ne me souviens de rien.
C'est pas le ticket avec vous,
qui, non, c'est le film qui a gagné la Palme d'Or. C'était pas original.
Parasite.
Parasite, voilà. Bon, ben voilà la dernière fois que j'ai ri au cinéma.
Sophie Kahl est notre invitée. Avec elle, on revient sur les lieux du crime. Sophie, ici au Musée de la Chasse de la Nature à Paris, un lieu où vous avez exposé votre travail. C'est difficile peut-être d'en parler, mais est-ce que vous pouvez le décrire à nos auditeurs qui n'ont peut-être jamais eu la chance de mettre les pieds ici?
C'est un lieu assez mystérieux, avec une sorte de cabinet de curiosité, avec beaucoup d'animaux naturalisés.
Ouais.
Moi, je suis assez... attirée par les animaux naturalisés, j'en ai beaucoup chez moi, auxquels j'ai donné tous les noms de mes amis, donc des animaux qui m'accompagnent vraiment au quotidien.
Dès que quelqu'un disparaît ou même quand quelqu'un
non,
est vivant?
Non, quand ils sont vivants, je leur donne, voilà, je leur parle, je vis avec pas mal d'animaux naturalisés. Donc ici, c'est un territoire assez proche, assez...
Ouais. Familier.
Familier. Et puis bon, j'y ai exposé, donc j'ai voilà, je connais ces recoins. J'ai fait c'était une exposition avec Serena Caron,
ouais.
Il y a presque 2 ans, et qui s'appelait Beau doublé, Monsieur le Marquis.
Et cette exposition, elle a donné lieu ensuite à un projet, parce qu'à l'issue de cette exposition, vous proposiez, Sophie, aux visiteurs de répondre à une question dans le Livre d'Or. La question était la suivante: que faites-vous de vos morts? Pourquoi cette question?
Parce que quand j'ai fait cette exposition ici, c'était la première fois de ma vie que je faisais une exposition et que mon père n'était pas mon premier visiteur. Mmh. C'est la première exposition qu'il n'aura pas vue. Et donc tout le rez-de-chaussée, je le lui ai dédié. Voilà. Et j'ai mis pas mal de photos qui représentaient des tombes qui disaient « père ». Et des textes sur lui. Enfin voilà, c'était une exposition sur la mort, disons. C'est un petit peu pour lui que j'ai fait cette exposition.
Il y a beaucoup de choses que vous avez fait pour lui, presque tout, je crois. Même vous dites que c'était pour lui plaire, c'était pour qu'il vous regarde.
J'ai commencé pour lui plaire quand j'avais 25 ans, mm-hmm. parce qu'il était collectionneur d'art contemporain et que je voulais le séduire et que ça m'a paru le meilleur moyen. Et ici, c'était un peu la dernière fois, quoi.
Ouais.
Et donc, comme il y avait tout ce thème qui traversait l'exposition, j'ai mis une sorte de livre d'or avec des photos de tombes qui disaient toutes « père ».
Père, voilà. Ouais. Fazer. D'ailleurs, c'est Fazer, des premières photos que vous avez pu faire, les photos de tombes.
Ce sont les premières photos, ouais, que j'ai faites dans ma vie, dans un cimetière californien où les tombes étaient, au lieu d'indiquer le nom de la personne décédée, il y avait son statut familial. C'est assez mystérieux, mais c'était ainsi. Et donc, le livre d'or, j'ai demandé donc aux visiteurs d'exposition de me dire ce qu'ils faisaient de leur mort, puisque moi-même, dans cette salle, j'expliquais comment je me comportais,
oui,
face à mes morts.
Ça donne un très bel objet chez Actes Sud. Comme voilà, toujours un très bel objet qui est associé à vos expositions. Sophie, on a envie de la voir. Moi, je suis une collectionneuse compulsive des œuvres de Sophie Kahl, artiste, c'est comme ça que moi, je vous définis au sens large. Et quand on questionne la mort, elle questionne aussi pas mal votre œuvre, en fait. Mmh. On parlait de cette première photo, celle que vous avez pu prendre,
oui, c'est pas,
dans un
pas
cimetière.
Pas forcément la mort,
le
mais
manque,
l'absence. Le manque, le départ, ma mère qui meurt, un homme qui s'en va, un tableau qui est volé, qu'on ne peut plus voir, un aveugle qui ne voit pas.
Oui.
Donc c'est vrai que...
Et vous, votre mort, Sophie, vous parliez de ce cimetière californien où je crois que vous avez acheté une...
J'ai acheté...
concession, je ne sais pas comment on dit aux États-Unis,
oui,
en tout cas. Sur ces tombes, dans ce cimetière, on ne met pas en effet le nom et le prénom, on met le statut. Vous, ce serait quoi votre statut sur cette tombe?
Si ça devait être un statut lié à la famille,
oui,
ce serait fille.
D'auteur,
définitivement. Mais je ne suis pas mère, encore moins grand-mère. Je ne suis pas une bonne sœur, ni... voilà, ce qui me reste, oui, moi, c'est
là, cette fois-ci, fille. Vous acceptez de vous définir en tant que fille.
J'accepte par la négative, oui. Ouais. Je ne suis pas, mais... oui, je suis une... Oui, ben, fille, je l'ai toujours dit, puisque, voilà, j'ai beaucoup fait de projets sur mes parents. J'ai filmé ma mère en train de mourir. J'ai fait cette expo sur mon père. Oui.
C'est ce qui vous définit, ouais, c'est ce rapport-là à la famille. Et qu'est-ce que vous aimeriez comme cérémonie ? Je sais que vous évoquez souvent ces questions-là dans un très beau livre. Vous rappelez que la notion de fin, voilà, vous y projetez. Je vous vois même rentrer dans un documentaire, dans un cercueil, qui est un geste que peu de personnes osent faire.
Oui,
ou c'est au
Palais Versailles, une exposition sur la mort, enfin sur les
rituels
les
qui sont très importants dans votre œuvre. En plus, on va y revenir. Vous l'imaginez comment, cette cérémonie
Ça, ce serait trop long, parce que ça me préoccupe beaucoup. Et puis, je pense que mes expositions ont parlé de la mort de ma mère, celle de mon chat, celle de mon père. Je pense que c'est moi, mon prochain sujet. Je pense que ça va être moi. Mais j'avais demandé à un ami metteur en scène de théâtre de mettre en scène mes funérailles. Il n'a pas voulu, ça l'a inquiété. Mais j'avais voulu à un moment... Voilà, faire la répétition générale pour pouvoir justement...
Pour être prête le jour J.
Pour prendre des décisions à l'avance. Mais j'avais même acheté avec mon père un caveau au cimetière du Montparnasse. Et on allait avec mon père tous les ans pique-niquer sur notre pierre tombale, sur laquelle il n'y avait pas encore de nom. Maintenant, il y a celui de mon père. Oui. Et j'ai décidé qu'il fallait qu'il y reste seul, que c'était à lui, quoi.
Et que vous iriez ailleurs.
Et que moi j'irais seule ailleurs, oui.
Sophie Calle est toujours notre invitée sur France Inter et on va écouter le son du jour parce qu'il nous faut bien un peu de musique. C'est l'été, il fait beau. On va écouter Aurel San, dis-moi.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool, ça commence par un verre, et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer, le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, 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 pour de vrai. S'il te plaît dis-moi, pourtant j'aime cette fille-là. Tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là.
Leïla Kaddour, le Mac de l'été sur France Inter.
Et que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la culture ? Il suffit de demander le programme.
Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros, Bioman.
Oh oui, toi aussi, tu vas avoir envie de crier Miracle Laser. Biorevolver, les Bioman sont à Paris à la Japan Expo. Les 5 acteurs de la série qui ont bercé notre enfance, Force Rouge, Jaune, Verte, Bleu et Rose, ils sont tous là au Parc des Expos à Villepinte. Pas sûr qu'ils soient toujours en mesure de faire un saut périlleux arrière avec coup de pied dans la tête du méchant, mais juste pour la photo souvenir, ça vaut le coup. Et pour les plus âgés d'entre nous, Leiji Matsumoto, créateur d'Albator, et Go Nagai, le papa de Goldorak, seront aussi de la partie. On pose une RTT, on se fait porter pâle et on prend ses clics et ses claques. Direction les Eurocaennes de Belfort ce soir, il va faire chaud avec les Suprêmes MTM. Jusqu'à dimanche, ambiance électrique avec à l'affiche Interpol, Jada Dead, Nekfeu, Compromat ou The Roots, le groupe autour de Jimmy Fallon sur NBC.
Je lui ai mis la fièvre.
La vie consiste avant toute chose dans l'exercice imperturbable de la raison.
Et mon coup de cœur de cet agenda, la 3e édition du festival Loud and Proud à la Gaîté Lyrique, un festival queer, féministe et intersectionnel qui questionne la représentation et la visibilité des femmes et des minorités sexuelles dans la culture. 4 jours de fêtes et de performances, et pour ouvrir le bal, 2 nanas qu'on adore, Béatrice Dalle et Virginie Despentes. Elles interprètent des textes de Pasolini accompagnés du groupe post-punk Zéro. Allez, passe une tête, on se couchera moins bête. Sophie Kahl, l'invitée du Mac de l'été depuis le musée de la chasse et de la nature à Paris. Sophie, si je devais parler de vous à une personne qui ne vous connaît pas, je devrais bien choisir parmi toutes vos œuvres. La première, ce serait « Prenez soin de vous », c'était en 2007. Moi, c'est comme ça que je vous ai vraiment rencontrée. J'ai le livre là, entre les mains, c'est toujours un objet magnifique. Et tout est parti d'une lettre de rupture, Sophie.
Oui, une lettre de rupture qui se terminait par ces mots « Prenez soin de vous ».
Et plutôt que de l'encaisser comme ça toute seule,
mais c'est-à-dire que je n'ai pas compris ce qu'il y avait derrière les mots. Je ne savais pas si cette lettre de rupture était définitive ou s'il y avait un petit espoir.
Ouais.
Donc j'ai demandé à une amie de la lire pour voir ce qu'elle pouvait lire derrière les lignes. Quand j'ai vu cette page feuille de papier et elle, son regard derrière en train de la lire, j'ai vu la photo. Et puis son analyse aussi m'a aiguillée. Et j'ai décidé de la donner uniquement à des femmes dont le métier consistait à interpréter. Donc ça pouvait être des correctrices, des écrivains, mais aussi des actrices, des musiciennes, des danseuses.
Enfin. Et pourquoi uniquement des femmes ?
Parce que c'est à des femmes que je l'ai confiée au début pour m'aider à la comprendre. Ça me paraissait la lettre d'un homme qui s'adressait à une femme. Et ensuite, je n'ai pas voulu inviter des hommes parce que je n'ai pas voulu faire un travail sociologique sur la différence entre la lecture d'un homme et celle d'une femme. Donc, c'est resté.
Et parmi ces femmes, il y a Jeanne Moreau. Elle lit la lettre de rupture et, phrase par phrase, elle la commente. On écoute un extrait.
Je ne vous ai jamais menti et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ça, c'est une très belle excuse. Complaisant, mais vraiment lâche. L'écriture est pas mal, mais enfin, c'est pas suffisant.
Mais avec Jeanne Moreau, moi, je ne la connaissais pas, Jeanne Moreau. Je suis téléphonée, je cherchais des actrices d'âge différent, de style différent, et elle a accepté, elle est venue le lendemain chez moi. C'est moi qui filmais, on était toutes les deux. Et j'étais pas sûre de ce que je filmais, puisque je suis pas vraiment technicienne. Donc j'ai demandé une deuxième prise, elle m'a dit hors de question. Et puis elle a lu la lettre pour la première fois sous mes yeux, c'est-à-dire qu'elle n'était pas. C'était vraiment spontanément qu'elle a réagi.
Et toutes ces femmes vous ont fait confiance, se sont laissées filmer, photographier.
Il y en a qui ont refusé.
Oui.
Et sinon, elles m'ont fait confiance. Oui, elles m'ont fait confiance.
À chaque fois dans vos projets, vous avez des rituels. Vous établissez des règles, des protocoles, des instructions. C'était le cas aussi pour l'un des premiers projets qui vous ont fait connaître, c'est Suite Vénitienne. C'était en 1980. C'est un projet dont on vous parle beaucoup.
C'est-à-dire que ça remonte un petit peu loin,
ouais.
Parce que je n'ai pas suivi de gens depuis 1980.
Alors, il faut expliquer, c'est donc, ça, vous décidez de suivre un homme.
Je suis revenue en France, j'étais un peu perdue, je n'avais pas d'habitude. J'avais quitté Paris pendant de nombreuses années. Et donc, j'ai suivi des gens vraiment pour donner à mes journées un trajet, une direction. Et puis, je me suis prise au jeu. Et vous l'avez suivi ? Je ne savais pas où ça m'emmènerait, je ne savais pas que j'allais l'exposer. Je le savais peut-être inconsciemment parce que mon père était collectionneur. Je avais des œuvres d'art au mur avec des photos, des textes en dessous, donc ça n'était pas un territoire totalement inconnu pour moi, mais je ne savais pas que j'allais le montrer un jour, non. Et puis ensuite, voilà, ça occupait mes journées, j'étais un peu paumée, oui.
Et dans les années 80, être une femme qui traque un homme, ça déclenchait quoi, ou en tout cas
ça déclenchait rien du tout, justement. C'était, à mon avis, beaucoup plus facile que si j'avais été un homme qui traquait une femme.
Ça,
donc,
d'accord.
Je pense que c'était plutôt un avantage.
On soupçonnait pas derrière une intention quelconque.
Voilà.
L'homme en question. Il y a eu d'autres projets où, je pense au carnet d'adresses que vous aviez trouvé, vous aviez commencé à mener l'enquête pour entrer en contact avec toutes les personnes qui connaissaient ce dit propriétaire du carnet d'adresses. Comment ils réagissent ?
Pas toujours bien, mais par exemple, quand j'ai suivi cet homme, on ne savait rien de lui. C'était une silhouette, je ne révèle pas son nom, on ne sait pas où il habite. Il n'y a aucune information, c'est plutôt sur moi derrière lui et mes pensées et mes sentiments. Lui, c'est une silhouette dans la rue. Le carnet d'adresse, c'est une chose un peu différente. C'est peut-être le travail le plus limite que j'ai jamais réalisé. C'est en tout cas le seul pour lequel j'ai eu, au moment où je le faisais, un doute, une mauvaise conscience, une culpabilité, mais en même temps une excitation. Donc j'ai persisté. Mais cet homme, je suis donc allée voir tous les gens dont le nom était dans le carnet, mais ces gens savaient qui il était, donc les informations, elles n'étaient pas anonymes.
Quand vous avez une idée, est-ce que vous passez rapidement à la pratique ? Est-ce que vous vous laissez le temps, justement, on peut parler d'expériences parfois un peu limites, de crainte d'être dans une forme de voyeurisme ou quelque chose de trop poussé ?
Il n'y a pas de règles pour le projet que j'ai fait sur l'argent ou pour le projet qui s'appelait « Douleur exquise ». J'ai mis 16 ans. Pour trouver comment la montrer.
Douleur exquise, c'est lié à une rupture
amoureuse.
Mais ça n'était
pas pour des problèmes d'éthique ou c'était des problèmes de représentation. C'était qu'est-ce que je fais avec ces informations ? Parce que moi, quand même, moi, mon but, c'est le livre ou l'exposition. C'est pas uniquement faire les choses pour moi. Donc, parfois, je mets beaucoup de temps pour trouver la manière de montrer et que cette manière corresponde au projet, qu'elle soit en accord. Et puis.
Et puis, vous travaillez seule, Sophie ?
Je travaille seule, oui.
Oui, parce que beaucoup d'artistes sont entourés d'une myriade d'assistants. Vous, c'est vraiment un exercice solitaire.
Oui, parce que j'écris, il m'arrive de demander de l'aide. Je ne développe plus mes photos, je n'encadre pas. Mais à la maison, oui, l'idée, la mise en place, la performance, enfin l'action, oui, je suis seule. Par exemple, quand j'ai fait le projet sur les aveugles, auquel je demandais quelle était la plus belle chose qu'ils aient vue dans leur vie alors qu'ils étaient nés aveugles, eh bien, il m'a fallu un an pour décider si la question était cruelle ou juste paradoxale. Voilà,
première réponse qui vous a fait dire que...
La première réponse, au bout d'un an, m'a montré que la question pouvait être naturelle.
Et que la réponse pouvait être intéressante.
Oui.
Ouais. Je vous ai demandé, on parlait de regard, moi je vous ai demandé de choisir une voix que vous aviez envie d'entendre, une voix qui vous marque, qui vous a influencé, en tout cas qui s'est imposée à vous quand je vous ai posé la question. Dans le transistor de Sophie Kahl, c'est votre père, Bob Kahl. Il était cancérologue et collectionneur d'art. On est en juillet 67.
Quel tempérament de peintre, forcément, vous apporte une vision qui, au début, vous surprend. Enfin, si on prend Armand, quand il a commencé à cumuler des ordures ou des bouchons de champagne ou des... La première fois, ça vous surprend. Là. Je n'ai jamais vu ça. Puis on cherche à comprendre, puis on s'aperçoit qu'au fond, dans la rue, partout, on voit des choses comme... Il vous modifie votre vision. Quand je me promène dans la rue, je vois différemment des choses qui avant me seraient passées inaperçues. Je pense qu'il faut absolument s'intéresser à ce qui se fait au moment où on vit. Il y a des tableaux qui ont été de coups de foudre. D'autres que je dois les revoir plusieurs fois. D'ailleurs, mais le coup de foudre n'est pas forcément bon. Il y a des tableaux que j'ai achetés par coup de foudre qui me plaisent toujours, que je pense que je ne pourrai jamais abandonner, quitter. Et d'autres tableaux, coup de foudre, je les rentre ici et 24 heures après, ils se sont dépoétisés, des illusions. Des tableaux qui, quand ils arrivent, je choisis par exemple, je crois avoir bien choisi. Je les ai vus dans un certain milieu, soit dans une galerie, soit dans l'atelier d'un peintre. Et quand ils arrivent chez moi, en général ça se passe d'ailleurs très rapidement, ils se dépoétisent en 24 heures. Enfin.
La voix de votre père, Sophie Kahl.
Elle est toujours là, ça ne me rend pas triste. Je veux dire, je la connais tellement qu'elle est, voilà, elle fait partie de ma vie. Ça ne m'attriste pas de l'entendre.
Non, mais en revanche, il avait un propos. On a écouté pas mal d'interviews de votre père. Il semblait avoir un goût sûr ou un œil, en tout cas, très aiguisé pour les
oui,
artistes.
Tout à fait. Il m'a appris à regarder. Et ma mère, par exemple, enfin, ils ne vivaient pas ensemble, mais ma mère était très contente que j'ai du succès, mais elle comprenait pas. Je veux dire, c'était pas du tout son langage. Une fois, j'ai exposé au MoMA à New York. Elle est venue au vernissage. Elle était complètement bluffée parce que j'exposais en plus dans une salle entre Magritte et elle m'a pincée comme ça en faisant un clin d'œil. Elle m'a dit, tu les as bien nus. Donc, voilà. Donc, elle était très, très contente, mais ça lui semblait extravagant qu'on puisse vivre en faisant ce que je faisais. Mon père m'a vraiment montrer le chemin, enfin.
Et quelle était l'œuvre qui lui plaisait le plus de vous? Parce que vous disiez que c'était votre premier spectateur, c'est toujours important, son regard. Est-ce qu'il avait un... Qu'est-ce qu'il aurait collectionné de Sophie Kahl?
Il a collectionné des autobiographies, des dormeurs. Il préférait les premières œuvres parce qu'il était assez... C'était un protestant, hein. Il aimait mieux les choses punaisées, mal foutues, écrites à la main. À la fin, il a trouvé que je devenais un petit peu trop esthétique, que mes cadres étaient trop jolis, que c'était trop décoratif. Donc, il avait la dent dure. Et puis, il n'aimait pas que je révèle trop de moi. Il était... Oui, on ne se raconte pas pour lui. Donc, avec moi, il est mal tombé. Mais
est-ce que vous vous racontez vraiment? Parce qu'on vous présente toujours comme ça, comme cet artiste de l'intime. Mais moi, j'ai la sensation que vous me racontez à peine 1% de votre vie. On a parlé des douleurs, on a parlé des ruptures amoureuses. Finalement, vous me parlez que de ce qui fait un petit peu mal. Je ne connais pas votre bonheur, moi, par exemple, Sophie Kahl.
Mais oui, parce que, en fait... C'est un peu compliqué. Ce que je fais n'est pas d'ordre thérapeutique. Je ne fais pas ces travaux pour aller mieux. Mais je me sers de moments difficiles parce que c'est plus facile de faire un pas de côté pour regarder un moment difficile et du coup prendre une certaine distance avec ce moment. Quand ma mère en train de mourir, je ne pense pas à ma mère. Je pense au film, à qu'est-ce que je vais en faire, à qu'est-ce que ça dit. D'ailleurs, une fois que j'ai fini d'installer les expositions, en général, je ne peux plus rentrer dans la salle où elle est en train de mourir parce que ce serait regarder cette fois.
C'est une façon quoi, de se détourner aussi de ce réel? Partir sans l'avoir partir.
Oui, c'est de regarder sans que ce soit personnel, presque. Ouais. Mais quand il m'arrive quelque chose d'heureux, les moments que j'aime, je ne les filme pas, je les vis. L'été, quand je suis en vacances, je ne filme pas. Je suis là avec mes amis, je ne les filme pas. Je ne fais pas de photos, en général, en dehors de projets. Je prends des notes quand j'ai un projet très précis avec une règle du jeu et que c'est un travail.
Ça doit vous agacer tous ces gens qui passent leur temps à filmer tout ce qu'ils voient et à les mettre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous ai pas trouvé sur les réseaux sociaux, Sophie.
Je n'ai pas de compte Instagram ni
de Twitter, de Facebook.
Voilà. Alors Facebook, il y a une jeune femme qui vit en Suisse qui m'a fait un compte. Mais je lui ai juste demandé, parce que les gens m'écrivaient sur son compte, donc elle me l'a dit un jour, et je lui ai juste demandé d'indiquer que ça n'était pas moi qui étais derrière le compte pour pas qu'on m'accuse de ne pas répondre. Et donc, elle met des informations d'ordre professionnel quand ça lui chante.
Et pourtant, les réseaux sociaux, ça pourrait être un formidable support éventuellement pour certains projets.
Oui, mais il faudrait encore que j'ai... Ou non, pour trouver un appartement. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je me suis demandé... J'ai failli appeler cette femme de Suisse pour voir si elle ne pouvait pas...
Poster un message.
Poster un message de ma part.
Et ça pourrait devenir une superbe aventure de Sophie Kahl. C'est parti d'une recherche d'appartement et ça sera documenté avec des photos.
Mais sinon, par exemple, j'étais un petit peu inquiète pour venir ici à votre émission parce que hier, une amie à moi me dit, voilà, j'étais sur Internet et je suis tombée sur un film que tu as fait il y a 20 ans et elle me dit, c'est curieux comme tu étais coiffée. Alors ça m'a intriguée, je lui ai demandé le lien. Moi, je ne vais jamais regarder ces trucs-là, mais jamais, ça me glace. Et donc, j'ai l'air toute mignonne, je parle tout doucement, je ne me reconnais pas du tout, du tout. Et en effet, j'ai des cheveux qui n'en finissent plus. Bon, ça ne devait pas être un site ultra populaire parce qu'il y avait deux films. Et sous chaque film, il y avait un commentaire, un seul.
Oui.
Donc, c'était pas... Alors, le premier commentaire, c'était horrible, c'était sur moi. Et ça disait, mon Dieu, comptez le nombre de fois où, pendant son interview, cette femme a dit « moi ». Et oui, moi, je ne parle pas des étoiles, je ne suis pas scientifique, donc vu qu'on me pose des questions sur mon travail, qu'en général, je suis le sujet de mon travail, il est certain que je dis très souvent « moi ». Et l'autre, sur l'autre film, c'était la même personne, c'était marrant, il a mis « mieux qu'un Témesta ».
Mon Dieu,
donc,
on
voilà.
explique Témesta pour les auditeurs.
Donc, les deux fois, c'est-à-dire soporifique, voilà, là, dans les derniers mois où je suis allée sur un site comme ça, l'un, je suis Témesta, et l'autre, on compte combien de fois j'ai dit moi. Bon, ça ne m'engage pas beaucoup à aller
sur les réseaux
sur
sociaux.
Les réseaux sociaux.
Sophie, la malicieuse Sophie aux yeux rieurs, avec toujours cette touche de poésie dans ses projets. Moi, c'est ce qui m'a conquis. La poésie, justement, parlons-en, le parent pauvre de la littérature ces dernières années. Alors, dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour lui faire une petite place, tous les jours dans cette émission. Une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs habitués, nous lit un texte.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus seños de duro estaño. Fuis, lune, 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 car si les gitans venaient, ils feraient avec ton cœur blanc collier et blancs anneaux. Enfant, laisse-moi danser, lorsque viendront les gitans, te trouveront sur l'enclume tes petits yeux fermés. Fuis, lune, 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 déjà j'entends les chevaux. Laisse, enfant, ne foule pas ma blancheur à mi-donnée. Le cavalier se rapproche, faisant sonner le tambour. Le grand tambour de la plaine, et dans la forge, l'enfant a ses petits yeux fermés.
Vous l'avez reconnu, merci Fabienne Sintès, que vous retrouvez à la rentrée à 18h sur France Inter tous les jours pour Un jour dans le monde et le téléphone sonne. Fabienne, pourquoi avez-vous choisi ce texte?
Alors, j'ai choisi ce texte qui s'appelle Le Romancero de la Luna Nula de Federico Garcia Lorca. Alors, je me la joue un peu en espagnol. Pas du tout parce que je le parle extrêmement mal, mais parce que ce poème, je m'en souviens parfaitement bien, je l'ai appris par cœur. Quand j'étais en seconde, j'avais un prof d'espagnol qui s'appelait Monsieur Colomer. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, Monsieur Colomer, mais il y a une chose que j'ai envie de lui dire depuis très longtemps maintenant. Aujourd'hui, je suis nulle en espagnol, vraiment, malgré mon nom. Je me souviens à peine de 2-3 phrases que je peux à peine prononcer correctement. Je me souviens des interros sur les verbes irréguliers qui commençaient par « ibamos » avec un accent. Mais ce monsieur nous a appris qui était Garcia Lorca. Je sais grâce à lui qui est ce monsieur, je sais qui est Antonio Machado, je sais qui est le Chilien Pablo Neruda, je sais qui est Juan Ramón Jiménez. Enfin, il a eu une importance et une influence au fond qui va bien plus loin que la langue et au fond qui nous est mal appris l'espagnol, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Il nous a appris tellement d'autres choses. Vous savez, c'était l'époque où il y avait encore des banlieues rouges autour de Paris et je me souviens d'une fois notamment où il nous avait envoyé, alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un peu plus tard? Il se trouve que Garcia Lorca, qui est donc un poète espagnol, il est mort en 36, c'est l'un des premiers morts de la guerre civile, il est mort, il a été fusillé, il est mort parce qu'il était révolutionnaire, enfin, y compris dans sa poésie, il est mort parce qu'il était gay, il est mort parce que il était républicain. Et il avait, pendant la très courte période de République, juste avant donc 1936 et la guerre civile, il avait créé une troupe de théâtre qui s'appelait La Baraca, et qui était censée montrer ses pièces, et les pièces de l'Espagne, celles de Cervantes notamment, y compris dans les endroits les plus reculés, et La Baraca, ça a très longtemps existé, je pense que ça doit, sous certaines formes, exister encore. Et donc un jour, moi j'ai été voir ces gens jouer Noce de sang, je crois, à Bobigny. On était 6 dans la salle, je m'en souviens très bien. Et ils ont joué pour nous 6. Et c'était formidable. Voilà. Donc Federico Garcia Lorca, type formidable. Et alors ce que j'ai lu quand même, ça vient d'un recueil qui s'appelle Le Romancero Gitano, qui est le recueil le plus connu de Garcia Lorca. Je conseille à tous les gens d'aller jeter une oreille dessus parce que c'est formidable. C'est très surréaliste. On appelle ça la génération de 27. C'est le début du surréalisme, de l'avant-gardisme. C'est quelqu'un qui a fréquenté Buñuel, qui a fréquenté Dali. Enfin, il y a plein d'histoires à raconter derrière ce monsieur qui nous raconte des choses à la fois de l'Espagne et de la poésie.
Merci Fabienne Sintès pour cet enthousiasme, cette passion et bel été.
Bel été à vous aussi, à la rentrée.
Sophie Kahl est toujours avec nous depuis le musée de la chasse et de la nature qui ferme bientôt ses portes. Sophie, j'ai évoqué deux projets pour parler de vous. Prenez soin de vous, Suite vénitienne. Plus récemment, il y a eu Sori Kahl, cet album un peu fou que j'ai adoré. La disparition de votre chat, Souris. Et vous demandez
en fait,
à des proches et à des moins proches.
Oui. En fait, je suis amie avec la chanteuse Camille, et quand on a décidé d'endormir Souris, Camille est venue lui chanter une chanson à l'oreille. Et je lui ai demandé si elle ne voudrait pas lui écrire une chanson. Et puis je suis également amie avec Laurie Anderson et j'ai fait la même demande. Donc toutes les deux ont accepté d'écrire une chanson originale. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à demander à tous les chanteurs que je rencontrais, et puis les amis d'amis, et puis même ceux que je ne connaissais pas, d'écrire une chanson pour Souris. Et beaucoup ont accepté. Et c'est devenu un triple album, puisqu'ils sont 30 finalement à avoir écrit une chanson.
Et ça donne de très très belles musiques, de très belles chansons. Moi j'ai adoré celle de Benjamin Biolay.
Quand Sophie calme le petit chat sourit, oh c'est sa cam-cam, il s'endort sourit. Et quand Sophie calque sa vision de la vie, oh tout est cam-cam en décalcomanie. Pourquoi moi? Pourquoi miaou? Pourquoi toi? Pourquoi toi ou pas quelqu'un d'autre? T'aimes qu'on ronronne côte à côte.
Voilà pour Benjamin Biolay sur France Inter qui rend hommage à Souris, donc le chat de Sophie Calle. Sophie, sur quoi vous travaillez en ce moment? Est-ce qu'on a le droit d'en parler ou est-ce que vous avez cette superstition?
En fait, j'avais un éditeur merveilleux qui s'appelait Xavier Barral et qui est mort cette année. Et on avait décidé de faire un livre un peu avant sa mort. Enfin, on en avait fait plusieurs. Donc, j'ai décidé de le faire différemment, mais quand même. Et c'est un lien avec le Musée de la Chasse. C'est un projet que j'ai montré ici sur les petites annonces qui sont parues dans le Chasseur français à travers les ans, puisque ça commence en 1895 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui revenait le plus. J'ai découpé en période de 10 ans. Donc, il y a 12 décennies, et de voir ce qui revenait le plus, par exemple, après-guerre, il y a plus de femmes que d'hommes. J'avais fait uniquement les hommes ici, qu'est-ce que les hommes recherchaient chez une femme, et je suis en train de faire en ce moment, qu'est-ce que les femmes recherchent chez un homme. Donc, ce livre sera sur ces petites annonces.
Sur ces petites annonces, on a hâte de voir le projet accroché et de voir aussi l'apparition du livre. C'est le processus avec vous, Sophie Calle. Dès que vous aurez un tout petit peu de temps pour vous, Sophie, votre prochaine envie de culture, c'est quoi le bouquin qui est posé sur votre table de chevet depuis beaucoup trop longtemps et que vous allez dévorer dans les jours qui viennent, le film que vous voulez rattraper, le spectacle que vous avez envie de voir au Festival d'Avignon, par exemple, est-ce que vous savez déjà?
Moi, j'aime beaucoup un metteur en scène qui s'appelle Varlikovsky. Donc, je vais voir son opéra Salomé dans quelques jours. Voilà.
Voilà le rattrapage de Sophie Calle. Je ne sais pas si vous partez à la maison, vous qui nous écoutez. Je crois que Sophie, vous partez chaque année en Camargue. C'est un peu votre rituel.
C'est chez moi. Je suis camarguaise.
Et pour tous ceux qui ne partent pas en vacances, on a quand même une pensée pour vous, parce que nous aussi, on est coincés au travail. Pas la peine de faire votre valise, d'angoisser à l'idée de rater l'avion. Vous voyez, tout d'un coup, ça devient assez sympa de ne pas partir. Nous, on vous entraîne au Cap Vert avec Césaria Evora, la diva aux pieds nus. De sa voix rauque et chaloupée, elle nous chante Petit Pays, devenu l'hymne de cœur des Capverdiens. Écoutez-la.
Là nasceu põe um estrela que cata brilhar, lina mar, põe uma areia, que cata moia, espalhar desse mundo fora, só vai terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná, espalhar nesse mundo fora. Só Rotimã, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi tanto saudade, saudade, saudade. Oi tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar e na mar boia uma areia que cata moiar espalhar nesse mundo fora só rotimar teve pouco cheio de amor tem morna tem coladeira terra sal cheio de amor tem batu tem funaná espalhar nesse mundo fora só rotima terra pouco cheio de amor tem morna tem coladeira terra pouco cheio de amor tem batu tem funaná petit pays je t'aime beaucoup petit petit je l'aime beaucoup petit pays je t'aime beaucoup petit petit je l'aime beaucoup.
Merci Sophie Kahl d'avoir été avec nous.
Merci.
Demain, le Mac de l'été
prend... J'espère que c'était pas soporifique.
On a passé un très bon moment, Sophie. Puis j'adore votre façon toujours de me contredire et d'affiner. Avec vous, on sait qu'on fait un véritable travail de précision. Demain, le Mac de l'été prend ses quartiers à Arles pour fêter le 50e anniversaire des rencontres photographiques. Nous, on va se retrouver bien sûr à 18h. Dans un instant, c'est le téléphone sonne. Belle fin de journée à vous, les amis sur France Inter. Et merci à ma toute belle équipe du Mac de l'été.